Frères et sœurs bien-aimés, nous avons donc plusieurs lectures qui nous parlent de la vigne. Il y a la première lecture, le psaume, l'évangile. Alors, est-ce que vous avez noté une différence quand même importante entre la première lecture et l'évangile à propos de la vigne? Il y a plusieurs différences, mais... Alors, une différence essentielle, c'est que la première lecture, ça se termine mal. L'évangile, pour une part, ça se termine mal, mais pour le peuple, ça se termine bien, parce que, voilà, il y a comme un renversement. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alors, je voudrais vous commenter un peu ces lectures, mais en prenant, il y a comme trois actes. Le premier acte, c'est le maître de la vigne, c'est Dieu qui prend soin de sa vigne. Le deuxième acte, c'est que finalement, les vignerons ne lui donnent pas le produit de la vigne. Voilà, ils sont réticents, ils se referment sur eux. Puis le troisième acte, alors d'un côté, les vignerons sont rejetés. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle en un sens. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'arrête pas là. L'amour de Dieu, voilà le dernier mot en quelque sorte. Il dit, non, je veux vraiment sauver mon peuple. Alors si ces vignerons ne font pas l'affaire, je trouve quelqu'un d'autre. Alors donc, premier acte, c'est le propriétaire qui aime sa vigne. Hein. Dans la première lecture, il y a des expressions qui sont belles. Mais pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? Alors il a fait tout ce qu'il pouvait pour que ça, voilà, toutes les conditions sont bonnes, il a bien investi, et puis voilà, mais avec vous aussi il a bien investi, le bon Dieu, il vous a donné la vie, il vous a donné plein de choses, il vous a donné des talents, il vous a donné sa vie, sa propre vie par le baptême, il vous a remis vos péchés à de multiples reprises, il vous a donné son corps et son sang, il dit... Sa parole aussi pour vous éclairer, pour... On dit, mais voilà, j'ai tout fait pour qu'ils aillent au ciel. Et alors, c'est bon pour nous de nous arrêter de temps en temps pour voir, pour prendre conscience de tous les bienfaits que Dieu a eus à notre égard, dont Dieu nous a comblés. Alors, le maître de la vigne, il fait ça parce qu'il veut, concrètement, il veut que ça rapporte. Mais ce que Dieu veut, c'est pas d'abord pour lui. Hein. S'il le fait, c'est pas pour lui, c'est pour nous qu'il le fait. Et alors, il y a encore d'autres éléments qui sont beaux, c'est de voir sa patience. Parce que le premier coup, quand on maltraite ses serviteurs, il aurait pu dire, bon, allez, j'envoie tout de suite mon armée, et puis on règle le problème, et puis voilà, on classe l'affaire, et puis... Mais non, Dieu continue, l'envoie d'autres serviteurs. Et puis après, il dit, mais il veut pas croire, en quelque sorte, il veut pas croire à la méchanceté de ces vignerons. Il se dit, mais non, quand même, avec tout le bien que je leur ai fait, comment pourrait-il ne pas me le rendre? Alors il envoie son fils. Voilà. Alors ça, c'est un peu la première chose que je voulais vous dire, c'est la bonté de Dieu à notre égard, pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous sauver. Dieu voudrait vraiment, tient vraiment à ce qu'on aille au ciel. Et le ciel, c'est être avec Dieu, et être avec tous ceux qui partagent sa gloire. C'est pour ça qu'on est fait. Voilà, cette bonté de Dieu. Voilà, ça c'est le premier acte, la bonté de Dieu. Deuxième acte, c'est l'ingratitude de l'homme. Alors, la parabole s'adresse aux grands prêtres, aux anciens du peuple. Alors, ils détournent les choses parce qu'au lieu de servir Dieu, ils se servent de Dieu pour leur propre profit, d'une certaine manière. Quelquefois, ça peut nous arriver aussi. Hein. Finalement, on se sert de notre position pour se bâtir une réputation, pour voilà, en tirer un bénéfice. En tout cas, les vignerons s'intéressent davantage à leurs intérêts personnels qu'à ceux de Dieu, qu'à la vigne qui leur est confiée. Et alors, c'est la tentation des grands prêtres, des anciens du peuple, c'est aussi la nôtre, c'est une forme de tentation d'indépendance, de n'avoir de vouloir rendre des comptes à personne. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Dieu veut que nous entrions en communion avec lui, et cette communion passe par le fait de reconnaître notre dépendance à son égard. Mais quand on refuse d'entrer dans cette logique, finalement, on est malheureux. Alors, cette parabole, elle est actuelle, alors à un niveau personnel, à un niveau aussi de notre société d'Occident, en France en particulier. Est-ce qu'on n'a pas jeté Jésus hors de la vigne ? Puisque finalement l'homme sécularisé veut être l'héritier, le patron lui-même, c'est Sartre qui faisait dire à un de ses personnages « Il n'y a plus rien au ciel, ni bien, ni mal, ni personne pour me donner des ordres. Je suis un homme et chaque homme doit inventer son chemin. » Voilà, donc on se débarrasse de Dieu quelque part. C'est une actualisation, on pourrait dire, du mythe de Prométhée. Et alors, on pense devenir soi-même Dieu en patron de la vie et de la mort. Alors, ça se traduit de multiples façons dans notre société, dans la bioéthique, etc. Et pas seulement. Mais bon, il ne faut pas simplement regarder la société, il faut regarder notre propre cœur. Et nous aussi, quelquefois, on fait un peu notre crise d'adolescence à l'égard du bon Dieu. On lui dit, bon, laisse-moi un peu tranquille et puis je veux faire un peu ce que je veux. Sans lui rendre le fruit qu'il attend de nous. Ça, c'est le deuxième acte, un acte un peu malheureux de la part de l'homme, même très malheureux. Et puis, troisième acte, alors pour une part c'est compliqué, et puis pour une part c'est beau. C'est compliqué parce que la dernière phrase de Jésus est terrible quand même. « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit ». Alors, il ne veut pas dire, parce que toujours Dieu, quand il menace, ce n'est pas pour nous condamner, il nous secoue pour nous appeler à la conversion, pour nous. Voilà. Mais en même temps, il faut prendre cet avertissement au sérieux, parce que l'endurcissement du cœur, c'est quelque chose qu'on retrouve à diverses reprises dans la Bible. Alors, tous pensent à Pharaon, qui endurcit son cœur, mais il y a certains pharisiens. Mais quelquefois, ça peut être nous, hélas. Nous voyons des personnes comme ça qui s'enfoncent petit à petit en refusant d'être touchées par la grâce de Dieu et qui se durcissent toujours plus. Alors ça peut arriver. Et je pense qu'il faut prendre cet avertissement au sérieux parce que l'enfer, ça existe. Alors bien sûr, le bon Dieu ne voudrait pas, son désir c'est de nous sauver encore une fois, il désire envoyer personne en enfer. Mais quelqu'un qui s'endurcit indéfiniment, ben à un certain moment le Dieu il peut plus rien. À un certain moment il faut quand même accepter cette miséricorde de Dieu. La seule limite à la miséricorde c'est notre mauvaise volonté on pourrait dire. Alors ça, c'est la partie un peu mauvaise nouvelle là, du troisième acte. Mais la partie bonne nouvelle, et je préfère rester un peu là-dessus, mais sans escamoter quand même la mauvaise nouvelle, parce que les choses sont sérieuses. Il y a un enjeu dans notre vie. Ce n'est pas gagné d'avance qu'on aille au ciel. Ça suppose d'ouvrir son cœur à Dieu quand même. Mais donc la bonne nouvelle, c'est qu'on voit une différence essentielle entre le passage de l'Évangile que nous avons entendu, et puis le passage d'Isaïe, ou tel qu'on l'a lu, voilà, Dieu, il abandonne purement et simplement sa vigne, en tout cas, c'est la menace qu'il fait. Tandis que là, avec saint Matthieu, on a une grande espérance. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? C'est la l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Alors, c'est Dieu qui est habitué à des renversements de situation. Vous en avez un exemple dans la Genèse avec Joseph, ses frères le vendent, etc., et pour se débarrasser de lui. Et finalement, c'est à travers ça que Dieu vient les sauver. Et d'une certaine manière, Jésus annonce ici sa résurrection. Hein, c'est, et de fait, dans le Nouveau Testament, souvent, ces versets sont cités justement pour nous parler, pour évoquer la résurrection qui succède à la mort de Jésus. Donc, ce n'est pas désespéré avec Dieu. Parce que les paroles de Jésus, si d'un certain côté peuvent paraître dures, d'un autre côté, elles sont pleines d'espérance. La vigne ne sera pas détruite. Dieu tient trop à sa vigne. Si les vignerons ne font pas l'affaire, vraiment, il veut trouver quelqu'un d'autre. Si quelquefois, hélas, les membres de la hiérarchie de l'Église ne sont pas à la hauteur, mais, ou certains en tout cas, ben voilà, il trouve des moyens pour toucher son peuple, le cœur des hommes, parce que Dieu il veut vraiment sauver tous les hommes. Ça, c'est vraiment son désir, en tout cas, sa volonté. Parce que c'est comme si son amour était trop débordant. Alors, il y a des canaux qui sont bouchés. Ben, il trouve d'autres canaux pour faire parvenir son amour aux hommes. Ça, c'est sur cette note d'espérance, je pense, que nous devons rester pour nous. Dieu veut vraiment que nous goûtions à son amour et que nous répondions aussi à son amour. Ceci dit, encore une fois, c'est important de voir notre responsabilité dans l'accueil de cet amour. Parce que Dieu nous force jamais à l'aimer. Et à un certain moment, c'est aussi remercier Dieu pour l'amour qu'il a pour nous, lui rendre grâce. Et c'est ça, finalement, qui nous rend profondément heureux, qui fait que nous vivons vraiment une communion avec Dieu. C'est un amour qui circule entre lui et nous. Alors demandons à Marie de nous aider à répondre comme elle a répondu vraiment à cet amour de Dieu pour elle. Amen.